Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, je vous regardais en même temps sur Europe1.fr, vous êtes beau.
Formidable, merci beaucoup. Vous voulez avoir un boulot pour l'année prochaine.
On ne sait jamais.
Cher Fayot, qu'avez-vous au sommaire ce matin?
Ce matin, je vous parle de BFM qui se fait rappeler à l'ordre, de la BBC qui pourrait donner de bonnes idées à France 4, de la Voix du Nord et de TF1, et d'un podcast qui va faire rugir.
On commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé, Cyril?
The Resident sur TF1 est en tête de la course des audiences d'hier soir. Près de 4 300 000 téléspectateurs ont regardé les deux nouveaux épisodes de la série. Top Chef est un solide deuxième sur le podium. L'émission de cuisine a été suivie par 3 700 000 personnes. Deux gouttes d'eau, le film avec Sylvie Testu sur France 2, est troisième de la soirée d'hier, juste derrière M6, puisqu'à peine 37 000 téléspectateurs de moyenne séparent les deux chaînes. Et pour finir sur les audiences, un mot de Des Racines et des Ailes, également diffusé hier soir. L'émission se classe en quatrième position avec un peu plus de 2 700 000 téléspectateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est sa courbe d'audience. Elle n'a cessé de progresser tout au long de la soirée. Des Racines et des Ailes a gagné 1 500 000 téléspectateurs entre le début et la fin du magazine consacré au littoral basque.
Culture Média. Cyril, on commence maintenant ce journal des médias avec le Conseil de déontologie journalistique et de médiation qui a rendu son premier avis.
Sa création avait fait débat. La situation ne va pas s'améliorer après ce premier avis. Le CDJM, c'est son petit acronyme, a tancé BFM TV. En cause, l'interview de l'avocat Juan Branco par Apolline de Malherbe au sujet de l'affaire Griveaux. Une interview qui remonte au mois de février. Selon le conseil de déontologie, la journaliste de BFM a fait preuve de partialité lors de cet entretien, qui, on s'en souvient, avait été particulièrement heurté. Suffisamment en tout cas pour que 23 personnes saisissent ce nouvel organe de contrôle et que celui-ci décide de taper sur les doigts de la chaîne Info. Le conseil justifie sa décision en disant que les entretiens journalistiques ne sont pas des interrogatoires policiers et que la manière de poser des questions, le choix des termes utilisés et la propension à impliquer à tout prix l'avocat contredisent l'exigence d'impartialité dont aurait dû faire preuve Apolline de Malherbe. Juan Branco s'était immédiatement plaint de la manière dont il avait été traité lors de l'interview. Sans surprise, il a donc remercié le conseil de déontologie journalistique pour cette décision. Il parle d'un grand hommage. Quant à BFM, on en reste à du no comment.
Une question, France 4 se serait-elle trouvée une alliée du côté de la BBC?
C'est souvent en citant l'exemple de la BBC que le ministre de la Culture a vanté les mérites d'un regroupement de l'audiovisuel public. Va-t-il également suivre ce qui se passe concernant sa chaîne jeunesse? En février 2016, il y a donc 4 ans, la BBC fait le choix de passer sa chaîne BBC 3 sur le numérique et donc de dire adieu au linéaire. À l'époque, le grand patron de la BBC justifie sa décision en soulignant que toutes les études montrent que les jeunes téléspectateurs regardent davantage les contenus en ligne que sur la télé traditionnelle. Autre élément, loin d'être anecdotique, ce transfert permet alors à la BBC d'économiser plus de 30 millions d'euros.
Et donc nous sommes 4 ans plus tard, que se passe-t-il?
Eh bien la BBC réfléchit à faire revenir BBC 3 parmi ses chaînes linéaires. Et pour quelle raison? Eh bien parce que les études d'aujourd'hui disent qu'il y a une forte audience disponible sur la télévision linéaire. Exactement le même argument qu'il y a 4 ans, mais à l'envers. Selon un porte-parole du groupe anglais, plutôt que d'aller consommer les contenus en ligne de la BBC 3, le jeune public est allé sur YouTube et sur Netflix. Alors, est-ce que cet exemple va donner du grain à moudre au ministre de la Culture? Alors que le sort de France 4 semblait scellé, les dernières semaines sont venues remettre en question la décision du gouvernement. De nombreuses associations demandent le maintien de la chaîne, d'autant plus que France 4 a aussi bien joué le rôle d'assistant prof durant le confinement. Hier matin, Franck Riester a dit que la décision concernant l'avenir de France 4 serait prise dans quelques semaines. Il faudra quand même pas trop tarder à se décider. La chaîne jeunesse doit normalement fermer le 9 août prochain.
Et Cyril, vous savez ce que disait le publicitaire Jacques Séguéla au sujet des études marketing?
Dites-moi.
Moins de tests, plus de testicules. Cyril, deux petites infos à nous signaler.
Enchaînez première,
après ça, allez-y.
La première, oui, j'y vais. Tout autre chose, c'est clair. La première des infos, c'est, vous vous en souvenez peut-être, je vous en parlais il y a quelques jours, de la très belle initiative de la Voix du Nord durant la phase de confinement. Voilà. Le journal avait offert quotidiennement une pleine page à une personne anonyme qui était en première ligne face à la crise sanitaire. En tout, 44 posters avaient été publiés. Et bien, comme un ultime hommage, la Voix du Nord a décidé de leur offrir une affiche affiche géante de 100 mètres carrés affichée sur la Grand Place de Lille où se trouve justement le siège du quotidien. Et l'autre info, hier je vous parlais de Destination France, le nouveau format du JT de 20h de France 2, une manière pour la chaîne de faire redécouvrir le territoire aux Français. J'avais demandé justement à la rédactrice du 20h si elle ne marchait pas sur les plates-bandes de Jean-Pierre Pernaut. Et bien devinez quoi ? Le 13h de TF1 a lui aussi lancé un format du même genre, Nos Vacances en France, un guide touristique pour aider les Français à passer au mieux leur été dans le pays.
Le marché du podcast est décidément en ébullition. Cyril, vous nous parlez ce matin d'un projet militant.
Les Lyonnes lancent leur podcast et son nom est tout sauf une surprise, Rugir. Pour commencer, qui sont ces Lyonnes ? En fait, c'est un collectif d'empowerment féminin. Empowerment, c'est une manière de vouloir donner plus de pouvoir. En l'occurrence, ici, donner plus de pouvoir aux femmes. Et le but précis de cette association, c'est d'assurer la défense, la protection et la promotion des droits des femmes dans le secteur de la publicité. Et ces Lyonnes ont donc décidé de se faire entendre par la voix d'un podcast original. Son principe est simple. Au cours de 5 épisodes, l'histoire relate les témoignages de 17 victimes de harcèlement moral et sexuel dans une seule et même agence de publicité. Et les faits sont vrais. Alors pour raconter cette histoire, ces Lyonnes ont choisi à chaque fois d'utiliser comme fil rouge le sentiment d'une victime, la peur, la colère, la culpabilité, l'isolement et le dégoût. Le premier épisode a été mis en ligne hier. Je vous propose d'en écouter un extrait, vous allez le comprendre. On parle ici de la peur.
L'autre se lève à son tour. Il met sa main sur mon épaule. La serre très fort.
T'aimes pas la hiérarchie, toi ? Ça se voit, t'es une fille du peuple.
Il se met à rire, et moi je craque. Je me mets à pleurer, et ça continue.
De toute façon, toi, on va tellement te pousser à bout, tu vas finir par te barrer. Mais là, tu sais quoi ? Tu vas quand même aller chez le client, présenter ta merde, et tu vas bien fermer ta gueule. Heureusement que t'as de beaux seins, putain.
Les boss sortent du bureau et s'adressent à nous. Vous n'avez rien vu, rien entendu, ok ? Et pas question de commencer à prendre parti, hein ? Et là, on a peur qu'ils nous fassent payer si on parle. Alors on baisse la tête, puis on dira rien.
Pour parler de ce podcast, j'ai contacté Émilie Cabanier. Elle fait partie du collectif des Lyonnes et elle a participé à l'écriture de ces podcasts. Je lui ai demandé pourquoi son équipe avait justement choisi spécifiquement ce média.
Le podcast résonne par la voix. Finalement, c'est un micro qui nous a permis de faire entendre la voix des victimes pendant le confinement, alors qu'elles sont en première ligne des inégalités. Et on pouvait pas rester les bras croisés. Il fallait prendre la parole. Et ce média nous est apparu comme une évidence. Ça fait tout drôle d'entendre des insultes, des injures dans la bouche des victimes. Et on voulait que d'autres l'entendent. L'enfermement peut rassembler pour sortir plus fortes et reliées.
Au-delà du projet Rugir, c'est vrai que le marché du podcast permet de traiter beaucoup de sujets autour des minorités, des violences faites aux femmes, de la cause LGBT ou du racisme. J'ai demandé à Émilie Cabanier justement pourquoi le podcast lui semblait un bon support pour traiter ces sujets par rapport aux médias historiques.
Les médias historiques, ils ne font pas de la condition des femmes une priorité. Et si on ne te donne pas le micro, ben tu dois le prendre. Nous n'avions pas d'autre choix que de devenir notre propre média. En plus, c'est un format qui est de plus en plus consommé et qui est idéal pour aborder tous ces sujets qui sont si nécessaires.
Alors toujours concernant ces Lyonnes, leur démarche ne se limite pas à ce podcast. L'association a fait savoir à l'entreprise concernée par les faits de harcèlement que si elle ne prenait pas des mesures concrètes, elle révélerait son nom publiquement. Le podcast Rugir est à retrouver sur la plateforme SoundCloud et sur Apple Podcast.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias et ce petit bruit va vous intéresser, Culture Média continue. Dans un instant c'est notre info média du jour, il y aura des chuchotements, des frottements, du grattage et d'autres petits bruits comme la barbe de Cyril Lacarrière qui frotte contre son micro car on va parler d'un phénomène auditif, la ASMR. Sur YouTube, les vidéos font des dizaines de millions de vues. Nous serons avec la journaliste Ariane Nicolas qui signe un article passionnant sur le sujet dans Philosophie Magazine, juste après ça.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Connaissez-vous l'ASMR ? Derrière cette abréviation, un phénomène à base de voix chuchotantes, de frottements, de grattages et autres petits bruits. Et ça cartonne des dizaines de millions de vues pour des vidéos d'ASMR sur YouTube. Pour en parler, nous sommes avec la journaliste Ariane Nicolas. Bonjour.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous signez dans Philosophie Magazine un article avec un très joli titre, ASMR, ouïr sans entrave. qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce phénomène ?
Eh ben, tout simplement parce que j'ai découvert l'ASMR il y a environ 3 ans. Ouais. Et qu'au début j'ai été je trouvais ça un peu bizarre, je me moquais un petit peu même de ces vidéos. Puis en fait je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant que ce qui me paraissait. Et j'ai fini même par moi m'y intéresser à titre personnel, c'est-à-dire que j'ai pas mal écouté d'ASMR, notamment pour me concentrer et parfois aussi pour me relaxer. Je me suis rendu compte que il y avait énormément de gens pour qui ça avait une place absolument centrale dans leur vie. L'ASMR, donc c'est ça veut dire réponse autonome sensorielle médiane, et en fait
en
c'est
anglais,
une sensation que certaines personnes
en anglais
voilà, c'est de l'anglais sensory. À la base.
Autonomous sensory meridian response ASMR.
Exactement. Et en fait, ça qualifie une sensation que certaines personnes ressentent, mais qui est vraiment physique, qui ouais. est à peu près au niveau du dos ou du crâne, et qui est suscitée par ces vidéos, qui sont des vidéos qui, en fait, présentent bon, des images qui sont assez belles, mais surtout des sons qui sont tout à fait étonnants. Et voilà, donc les personnes l'écoutent beaucoup pour faire une sorte de méditation, et surtout pour se relaxer, en fait, et parfois pour aussi s'aider à dormir.
Ça date de quand, la ASMR ?
Alors, ça apparaît à la fin des années 2000, au tournant à peu près 2010. Au début, c'est une communauté, si vous voulez, YouTube, qui est extrêmement restreinte. Et puis, il y a 5-6 ans, il y a vraiment eu un boom de l'ASMR, avec une communauté qui a grossi. Et puis, depuis 2-3 ans, c'est quelque chose qui est vraiment devenu très mainstream et qui est devenu mondial.
Alors, pour entendre ce qu'est l'ASMR, on va écouter un extrait d'une vidéo qui dure 3h30 en réalité, réalisée par la Britannique Emma Withersmith, j'espère que Smith, c'est son nom de famille. Pourquoi on a choisi cet extrait, qui est très étrange ? C'est parce que cette vidéo postée il y a tout juste un an comptabilise plus de 18 millions de vues et surtout d'écoutes. Le son qu'on est en train d'entendre, c'est un ciré qu'on enfile et qu'on déplie, et ça fait donc 18 millions de vues. Que recherchent les personnes qui regardent ces vidéos et ces sons d'ASMR ? Quel effet ça leur procure ?
Ça peut paraître très étrange de penser qu'un ciré, ça puisse provoquer autant de sensations. Mais les personnes, en fait, je pense d'abord, sont dans la recherche, en fait, d'une forme de présence. C'est ce que m'explique d'ailleurs Emma Withersmith, que j'ai interviewée pour l'article. C'est-à-dire que, en fait, pour les personnes qui ont envie de se relaxer, la méditation, ça peut paraître un peu angoissant, parce que quand on médite, on est un peu face à soi-même, on est face au vide, une forme ouais. de néant, en fait. Puis ça demande un effort qui est quand même important, en fait, de méditer. Il y a quelque chose d'un peu contradictoire, presque, dans la méditation, de rechercher une certaine plénitude.
Oui.
Et en fait, l'ASMR, ce qui est très intéressant pour ces personnes, c'est que ça détourne leur attention. Donc il y a quelque chose, elles arrivent, en fait, à le sortir de ce qu'elles disent, hein, de leur propre corps, de leur propre esprit, mais sans cette espèce de dimension un petit peu difficile que peut représenter la méditation. Et ce que dit Emma Withersmith, c'est qu'elle a envie, elle, d'avoir une forme de présence, c'est-à-dire d'être une personne qui va se montrer rassurante. Et donc, en fait, plus encore que la vue, c'est par l'ouïe que cette présence-là, elle va se faire, soit par la voix. Il y a énormément de vidéos qui sont des vidéos de chuchotement où la personne ne va pas forcément dire des choses d'ailleurs qu'on arrive à comprendre, mais on sait juste qu'elle est là, on sait juste en fait qu'elle nous accompagne dans un moment où on a besoin en fait d'être accompagné, mais en fait d'être accompagné dans une forme d'isolement, puisque l'ASMR, c'est aussi ce qu'on peut lui reprocher d'ailleurs, c'est qu'en fait ça met les personnes dans une forme de cocon sonore où on est très bien, on est vraiment dans une forme de, je ne dirais pas d'accomplissement, mais presque d'ataraxie, selon le terme grec qu'employent notamment les épicuriens. Et en fait, c'est cette présence-là qui va être très rassurante et qui est pour certaines personnes vraiment devenue vitale quasiment. Il y a vraiment des gens dans les commentaires, les gens commentent énormément sous les vidéos,
ouais.
On voit que pour elles, c'est un substitut quasiment à une thérapie, et c'est une thérapie qui non seulement est gratuite, mais qui, je pense, arrive à combler certains doutes, certaines attentes que peuvent avoir ces personnes-là.
Et jusqu'où ça peut aller, cette ataraxie, cette absence de souffrance, quel que soit le domaine de la souffrance ? Est-ce que ça peut aller, je le dis parce que vous le citez dans votre papier, l'ASMR lié à un orgasme du cerveau ?
Alors, c'est ce qu'on a beaucoup reproché à l'ASMR au début. Il y a encore une sorte de préjugé qui consiste à dire que c'est un orgasme, si vous voulez, du cerveau, un orgasme sensoriel un peu spécial par la voix ou par certaines stimulations visuelles. Il se trouve qu'évidemment, les personnes ont quand même plutôt tendance à se dégager de cette idée-là. Il y a une espèce de soupçon comme ça qui serait de dire que c'est une sorte de pure sensualité.
Ouais.
Et en fait, dans la mesure où on est quand même sur la question plutôt de la relaxation et du bien-être, elles font la différence avec le plaisir sexuel. Mais évidemment, on sait sait, Marguerite Duras disait par exemple que les femmes jouissent par l'oreille, il n'y a pas que les femmes, mais disons que c'est comme ça que ça peut être formulé. Ouais. Il y a des podcasts ASMR qui sont eux spécifiquement sexuels, donc on fait quand même tout à fait la différence. Mais c'est vrai qu'on est quand même à la limite d'une forme de sensualité qui peut être assez dérangeante, mais du reste c'est pas forcément tout à fait nouveau. Tout ce qui est auditif, si vous voulez, ça a toujours eu une espèce de soupçon qui pesait sur ces choses-là. On sait que chez Platon, par exemple, dans Phèdre, on apprend que les cigales, en fait, ce sont des hommes qui ont été transformés dans ces animaux parce qu'ils ont trop écouté de musique. Et on sait bien que pour les religieux, parfois, la musique, elle est un petit peu suspecte. Il y a une espèce de position de passivité, de laisser aller un langage, en fait, qui n'est pas forcément compréhensible. Ouais. Et c'est ce qui se passe un petit peu avec l'ASMR aujourd'hui.
Ariane Nicolas, vous restez avec nous. On a encore plein de questions à vous poser. On va marquer une pause. Et avant de marquer la pause, non, je ne voudrais pas qu'on entende le générique. Je voudrais qu'on entende l'ASMR. Il y a des petits bruits d'objets, on les a entendus. Mais on va entendre une vidéo d'ASMR s'appelle Gentle Whispering.
Good evening. Thank you so much for joining me tonight. Today I decided to just have some one-on-one time with you. So no rules, no games. Just pamper time. I'm going to relax you.
Vous entendez l'effet que ça fait l'ASMR. On marque une pause, il est temps.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Ariane Nicolas, journaliste qui vient de publier dans Philosophie Magazine, le dernier numéro, un papier passionnant titré ASMR, ouïr sans entrave. L'ASMR, pour qui prendrait l'émission en route, ce sont les petits sons qui sont jetés comme ça et qui font des effets absolument dingues sur certaines personnes. Certaines personnes sont réfractaires à l'ASMR, Ariane Nicolas.
Oui, il y a des vidéos qui sont tout à fait gênantes. Alors déjà, il y a des gens qui trouvent que se faire infantiliser, ce qui en tout cas, ces personnes, c'est ce qu'elles ressentent quand elles voient certaines vidéos, déjà elles n'aiment pas forcément. Ouais. Et puis il y a vraiment des sons qui peuvent être très gênants. Je pense par exemple, il y a une forme de micro qui est très particulier, qui recrée en fait la forme d'une oreille. Ouais. Et le but de ce micro, c'est de créer une sorte de vraiment de massage auditif. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous masser le cerveau. C'est vrai que c'est très dérangeant. Il y a quelque chose de très intrusif en fait dedans. Et puis il peut y avoir aussi des sons en fait que chaque personne va apprécier d'une manière différente. Les sons, par exemple, de nourriture, écouter quelqu'un qui va manger très fort, c'est des vidéos qui sont extrêmement vues, elles sont assez fascinantes, mais elles peuvent être assez gênantes aussi pour certains. Ouais. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'une certaine manière, en fait, on revisite un petit peu le quotidien avec l'ASMR. On peut avoir, par exemple, des vidéos de claviers d'ordinateur qui vont être extrêmement relaxantes pour certaines personnes, alors même que dans la vraie vie, quand on a dans un open space des gens qui tapent sur l'ordinateur, ça peut un petit peu taper sur le système.
Et il y a même des couples qui se
séparent. Donc chacun, en fait, se réapproprie. Chacun se réapproprie un petit peu son le réel en fait et essaye de se créer son propre paysage sonore avec des goûts qui sont évidemment tout à fait singuliers et propres à chacun.
Et il y a même des couples qui se séparent parce qu'ils supportent plus de s'entendre déglutir. Alors vous avez aussi fait parler une certaine Suzanne, elle est vendeuse elle a 28 ans, elle parle de tingles. Qu'est-ce que sont les tingles ?
Alors, ce sont en fait les picotements qui correspondent en fait à cette sensation ASMR qui est tout à fait propre et qui effectivement n'est pas forcément tout à fait bien comprise encore par la science. Les expériences et les études manquent pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passe au niveau physiologique. Mais ce qui est une notion clé, si vous voulez, dans l'ASMR, ça va être la notion de trigger, qui est la notion de déclencheur. Mmh. Et en fait, il va y avoir des sons qui vont être plus ou moins aptes à déclencher ces sensations physiques chez les personnes. Et donc, ce qui est intéressant aussi avec YouTube, puisque c'est un phénomène qui est quand même sur une plateforme vidéo à la base, avec un algorithme qui est très puissant, c'est qu'on peut faire énormément de recherches via la sérendipité, et puis chaque personne va essayer d'aller trouver, en écoutant des vidéos encore et encore, le déclencheur qui va leur permettre d'avoir cette sensation particulièrement agréable.
Voilà, je précise pour qui ne connaît pas, la sérendipité, c'est le fait de tomber sur quelque chose alors qu'on cherchait autre chose. Suzanne, qui parle de ses tingles, décrit un frisson qui parcourt la nuque. La colonne vertébrale va parfois jusqu'aux tempes et aux reins. D'autres évoquent la poitrine, les bras ou les joues. Alors, il y a des anglophones qui font de l'ASMR, mais également des francophones. Il y a Roxane ASMR qui fait des massages d'oreilles sur un support fait exprès, ou encore Nefertiti ASMR qui fait, elle, de l'ASMR avec des plantes.
C'est aussi une plante qui est recommandée contre l'insomnie et qui est bonne, enfin, qui prévient l'anxiété. Permet de soulager en tout cas. en train de...
Alors vous savez quoi? Ça fait aucun effet sur moi parce que cette plante, j'ai l'impression que c'est de l'ail qui frissouille dans une casserole et ça fonctionne pas. Et c'est un phénomène qui n'échappe pas non plus à la moquerie, vous le disiez. Il y a de nombreuses parodies d'ASMR sur YouTube. Aux États-Unis, ça a été moqué notamment par Ellen DeGeneres, grande animatrice télé, par la rappeuse Cardi B. Et en France, par l'actrice Anna Mouglalis dans une vidéo pour Télérama.
Ça marchera jamais, votre truc.
Non, mais vous rigolez ou quoi? C'est comme les chatons, ça cartonne sur Internet.
Au-delà du phénomène auditif, ce qui vous intéressait également, Ariane Nicolas, c'était la dimension sociale. Les personnes qui regardent et qui écoutent de l'ASMR forment une communauté bienveillante. Comment vous expliquez ça?
Mais écoutez, c'est un phénomène qui est assez surprenant parce qu'on a l'impression que sur YouTube, dès qu'il y a une personne qui dit qu'elle aime quelque chose, vous avez forcément une armée de trolls qui vont lui expliquer que jamais elle n'aurait dû avoir cette pensée. Je pense qu'il y a quand même l'idée, Hélène DeGeneres par exemple, quand elle a fait cette vidéo, enfin, elle a diffusé une vidéo en s'en moquant, elle s'est fait vraiment beaucoup attaquer et les gens lui ont dit mais pourquoi est-ce que vous vous attaquez à la seule communauté qui est justement absolument bienveillante et qui surtout, je pense en fait, accepte une forme de vulnérabilité. Il y a l'idée quand même dans l'ASMR que les personnes sont des gens sans prétention, qu'elles ont d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes, pas seulement, mais du second degré, c'est-à-dire qu'elles sont tout à fait conscientes de leur exposition en fait à ce genre de moquerie. Et quand vous avez des commentaires, il y a toujours l'idée que pourquoi est-ce que j'aime ça, c'est quand même absolument ridicule et en même temps je peux pas m'en passer. Donc il y a quand même une forme, je pense, de réappropriation de son propre rapport, je dirais, enfin de son besoin d'avoir un rapport différent au monde qui inspire quand même le respect, parce que ce sont des gens qui disent oui, je n'ai pas envie de subir absolument les sons qu'on m'impose dans la rue, chez moi, au travail. Certes, je suis quelqu'un qui a besoin, qui a cette forme de vulnérabilité. Mais au moins, j'essaie de combattre quelque chose, peut-être, en allant vers des choses qui sont tout à fait bizarres et surprenantes. Je pense que d'une certaine manière, c'est une forme de révolution, je dirais pas jusque-là, évidemment. Mais il y a une volonté de s'autonomiser par rapport à certaines choses, je pense.
Merci beaucoup, Ariane Nicolas. Je rappelle que vous êtes journaliste et votre papier ASMR, Ouïr sans entrave, est à lire dans Philosophie Magazine. Culture Média continue, il y aura le rappel des titres de 10h, puis le producteur Pierre-Antoine Capton qui produit Le Grand Échiquier de retour ce soir en direct. Il y aura le journal de la culture et puis Michel-Édouard Leclerc, on va parler du festival Culturissimo, mais d'une manière très différente. Nos indispensables, une histoire de jumeaux au destin chaotique et des comics avec un super-héros, c'est le meilleur pote de Batman et c'est pas Robin. Comment c'est possible? Réponse juste après ça.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Dans un instant, nous serons avec le producteur de télévision Pierre-Antoine Capton. Il y aura ensuite le journal de la culture d'Hélène Manarino, puis Michel-Édouard Leclerc pour la 7e édition de son festival Culturissimo. Mais chez vous, il vous racontera nos indispensables, une mini-série qui a tout d'une grande et un comics sur un héros méconnu, sauf de Batman.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Pierre-Antoine Capton.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes président et cofondateur du géant audiovisuel français Media One, en train de devenir un champion européen, même mondial, avec vos deux associés Xavier Niel et Mathieu Pigas. Mais vous êtes également connu pour être producteur via votre société Troisième Œil. Vous produisez des émissions comme C'est à vous, C'est l'hebdo ou encore Des racines et des ailes. Et un événement ce soir sur France 2 pour vous en direct, le retour du Grand Échiquier, produit par Troisième Œil, présenté par Anne-Sophie Lapix. C'est la première grande émission culturelle en direct depuis la fin du confinement. Dans quelles conditions sera-t-elle produite? Tout d'abord, on va parler de l'orchestre Pierre-Antoine Capton que vous avez réorganisé.
Oui, alors d'habitude on a un orchestre très grand d'une centaine de personnes, on a seulement 30 personnes dans l'orchestre aujourd'hui pour une simple et bonne raison, c'est qu'on pouvait prendre aucun instrument avant. On les a considérés comme des mitraillettes à miasme. Et donc, ça vous amuse, mais c'est
le cas. Mot mitraillette à miasme.
Une trompette peut projeter un postillon à 4,50 m. Et comme le générique du Grand Échiquier nécessitait une trompette, il y a un seul instrument avant dans cette émission. C'est une trompette qui sera isolée sur le côté. Ouais. Tout le reste, donc l'orchestre sera composé uniquement de 30 personnes.
Vous savez quoi, Pierre-Antoine Capton? Ici à Culture Média, on avait envie de sauver votre trompette.
Thank you.
grand échiquier, jouer avec un grand orchestre de 30 musiciens, plus une mitraillette à miasme. Dans quelles conditions allez-vous tourner? Tiens, le mot mitraillette est bien choisi parce que vous avez dit que l'organisation serait quasi militaire. C'est-à-dire?
Ouais. Alors, elle est très militaire parce que après des semaines et des semaines de rediffusion, j'espère que le grand échiquier redonnera le coup d'envoi de la reprise des grandes émissions de prime time. On a tous été arrêtés pendant très longtemps. On a un grand barnum culturel exigeant qui inaugure ce retour à la télévision. Je pense que Jacques Chancel, ça doit beaucoup l'amuser de là où il est. Et France Télévisions a été courageux de reprendre par une émission difficile à produire, parce qu'avec beaucoup de monde. Là, évidemment, l'émission sera totalement différente. On a des chemins fléchés pour les techniciens, pour éviter qu'ils se croisent. On a des grands artistes internationaux qui sont sur la scène du Grand Échiquier, qui ne peuvent pas se croiser. Tous les fauteuils sont en permanence désinfectés. Il y aura pas de public, malheureusement. Les artistes joueront pour les personnes qui sont là et qui travaillent. C'est quelque chose de très exigeant, très militaire. En même temps, on fait que notre travail de produire des émissions, d'offrir du divertissement, de la culture. Et on est très heureux avec Anne-Sophie, l'EPIX et les équipes de pouvoir proposer ça.
Anne-Sophie s'est posé une question cette semaine, parce qu'il y aura plusieurs personnes qui vont s'asseoir sur le piano. On donnera la liste des invités dans quelques instants. Mais entre chaque intervention, le piano va être nettoyer. Question simple, se demande-t-elle, comment on va nettoyer les touches du piano sans faire de bruit, vu que vous êtes en direct?
C'est une bonne question. On a des techniciens extrêmement performants autour des équipes de Franck Broca et des équipes régies, je le souligne, de France Télévisions, qui font un boulot de dingue, qui viendront désinfecter chaque touche du piano. Ouais. Alexandre Langeard le fera très bien.
On va entendre toute la gamme de do chromatique. Qui seront les invités? Il y aura toujours autant d'invités, et qui seront-ils?
Alors, d'abord, les artistes sont très contents de revenir participer à cette émission. Vous l'avez vu, dans les émissions de talk show, on a tous fait des Skype. Mmh. Dans les émissions de divertissement, tout le monde a fait plein de choses à distance. Et là, on a eu beaucoup de demandes pour venir. Il y a notamment Renaud Capuçon, Christine and the Queens, Angélique Kidjo, Célassou, Patricia Petitbon, Philippe Jarowski, Eric Orsena, Jacques Weber. Tout un tas d'artistes qui seront là, qui vont se mélanger. L'émission sera sans doute imparfaite parce qu'elle est difficile à produire. Symboliquement, c'est très fort que ça soit une émission culturelle, artistique qui redémarre. Mmh. Mais cette imperfection, à mon avis, va amener quelque chose d'assez incroyable. On démarre en direct, on démarre dans des conditions difficiles. Mais c'est important pour tout le secteur de l'audiovisuel qu'on puisse reprendre un grand show comme ça en direct. La seule chose que je dis rapidement, c'est dommage que l'émission soit pas assurée. C'est-à-dire qu'on prend tous les risques, c'est la production qui les prend. Et les seuls qui n'ont pas joué le jeu aujourd'hui dans tout le secteur, ce sont les assurances. Donc on fait ça, la production France Télévisions prend le risque de lancer, mais on espère que tout se passera bien.
Expliquez à qui ne connaît pas les arcanes de la télévision, comment ça se passe d'habitude avec les assureurs? C'est-à-dire qu'est-ce qui peut vous tomber sur le coin de la figure, si j'ose dire?
Si quelqu'un tombe malade, si un projecteur tombe sur quelqu'un sur le plateau, si un incendie se déclare, les assurances jouent le jeu.
Voilà.
Et donc vous remboursent et prennent en charge
l'annulation. Mais là, en l'occurrence, si quelqu'un, après l'émission, est atteint du coronavirus, que se passe-t-il?
Eh bien, ça sera Troisième Œil, la société de production, avec France Télévisions, sans doute, qui prendra en charge toute l'annulation. Si cet après-midi, il y a un cas de Covid qui a été déclaré hier, on annule le show. L'intégralité du remboursement serait prise en charge par la production. Les assurances dans le secteur de l'audiovisuel ne jouent pas le jeu. Il y a un fonds qui va être dédié aujourd'hui pour les séries télévisées et pour les films. On considère aujourd'hui que les grandes émissions de flux, comme The Voice, comme Le Grand Échiquier, ne sont pas considérés de la même façon, alors que c'est des charges très lourdes. Et on a besoin aussi d'être suivi par les assurances. Sinon, ça sera très difficile de reprendre.
Ouais, on n'a pas donné tous les noms de tous les intervenants. Vous avez cité Renaud Capuçon. J'aurais pas qu'on oublie son frère Gauthier Capuçon, qui serait vexé. La danseuse étoile Dorothée Gilbert, le contre-ténor Philippe Jarowski. J'avais la liste sous les yeux, vous savez, parce que sinon, de mémoire comme ça, j'aurais pas cité tout ceci. Il y a plein d'autres productions qui sont en route avec vous, grâce à vous, Pierre-Antoine Capeton. On en parle juste après ceci.
Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie du producteur Pierre-Antoine Capeton, qui produit ce soir Le Grand Échiquier, c'est le retour des grandes émissions en direct d'après confinement. C'est ce soir sur France 2, présenté par Anne-Sophie Lapix. Je vais citer parmi les invités les frères Capuçon, Patricia Petitbon, Angélique Kidjo, Eric Orsena, Christine and Queens, ou Célassou, Jacques Weber encore. Vous produisez beaucoup d'autres choses, Pierre-Antoine Capeton, évidemment. Notamment, C'est à vous, qu'a très très bien marché, qui a surperformé, comme on dit dans le métier, pendant le confinement. Les audiences ont explosé.
Oui, les audiences ont explosé. Je rappelle qu'on a démarré l'émission il y a 10 ans avec 80 000 téléspectateurs. Ouais. et qu'on a touché jusqu'à 2 200 000 téléspectateurs en moyenne à certains moments du confinement. Ça s'explique simplement par le recul, le regard que les équipes éditoriales de l'émission ont pu avoir en prenant au bout d'une semaine des axes un peu différents des autres.
Vous êtes resté en studio d'abord.
On était en studio.
Comme quotidien, alors que Cyril Hanouna, qui présente Touche par mon poste, a choisi, lui, de faire l'émission depuis chez lui. Et ce fut la prime aux émissions qui sont restées en studio, en l'occurrence.
Ça a été la prime aux émissions qui étaient aussi d'utilité et qui pouvaient avoir un regard différent sur cette période. Cyril Hanouna fait du divertissement, quotidien, un mix entre les deux. Et C'est à vous était, pour moi en tout cas, la meilleure émission pour accompagner cette période-là. Les éditos de Patrick Cohen ont été particulièrement, en tout cas, remarqués par beaucoup de monde, brillants, intelligents. L'énergie d'Anne-Elisabeth Lemoine aussi pour tenir cette émission, ça a été difficile quand même. Hein, quand tout le monde était arrêté, qu'on était les seuls à l'antenne au démarrage, on savait pas si on faisait, si c'était intelligent de pouvoir continuer comme ça. Les équipes ont continué sur la base du volontariat. Delphine Ernotte nous a dit, vous pouvez continuer sans aucun problème. Et on y est allé. Et Anne-Elisabeth Lemoine a eu les mots pour motiver les équipes, les tenir. Et cette énergie-là, elle s'est aussi sentie à l'antenne. Et je suis extrêmement fier du travail des équipes de Troisième Œil. Je suis ravi que Pierre Lescure et Marion Ruggieri reviennent lundi et qu'on remette de la culture dans l'émission, parce qu'il manquait une petite musique sur ce plateau qu'on sera ravis de retrouver. Mais voilà, C'est à vous à prouver toute sa force pendant cette période.
Alors il était temps, franchement, que le confinement se termine. Il y a des soupapes de sécurité qui ont fini par sauter, comme vendredi dernier, la fin de l'émission avec Bernard Pivot.
Bon, vous viendrez nous parler tous les deux du monde d'après, Bernard ?
Mais oui, le monde d'après. C'est extraordinaire parce qu'actuellement, on voit des choses comme sur Netflix, on nous dit que c'est des séries nouvelles, on nous dit voilà des films nouveaux, c'est la première fois, c'est des nouveautés. Et ce sont des archives. Pourquoi ce sont des archives? Parce qu'ils n'ont pas de masque et parce qu'ils s'embrassent, ils baisent, etc. C'est des archives, c'est dans l'ancien monde.
On va baiser comme dans le monde d'avant, dans le monde d'après, c'est promis. À lundi.
Alors, je ne vais pas vous demander si vous allez tous baiser maintenant, comme le recommande Babette, mais plus sérieusement, quels enseignements vous avez tirés de ces 2 mois de confinement en termes de production et d'organisation du travail? Est-ce que plus rien ne sera comme avant?
Je pense que plus rien ne sera comme avant. Le télétravail, pour une grande partie des équipes, s'est avéré aussi, bien réalisé que s'ils étaient dans les bureaux. Après, il y a quelque chose, il y a une chose qui m'a vite fatigué, c'était les Skype, parce qu'on pouvait pas faire autrement. Sans trahir de secret, certains invités venaient en plateau, mais n'avaient pas l'autorisation de leur hiérarchie de pouvoir être en plateau. Donc ils étaient dans les loges et faisaient des duplex de manière un peu différente.
Ah oui, des vrais faux duplex.
En tout cas, c'est des situations assez inconfortables de devoir faire des Skype. Et maintenant, on retrouve nos invités sur le plateau. Ça change quand même tout. Et ça, je pense qu'on était très content de le faire au début. Comme tous les artistes qu'on puisse exprimer sur les réseaux sociaux, je pense que tout le monde est content aujourd'hui de revenir en plateau parce que c'est là où ça se passe.
Évidemment.
Ce qui va changer aujourd'hui, c'est la façon de produire, d'imaginer les choses, de créer. En termes de fiction, on a été très créatif pendant cette période. Il y a beaucoup de choses qui se sont écrites de la part des auteurs. Ouais. Et je pense que ça va amener beaucoup
de
belles choses.
Et puis, à les émissions de flux, Pierre-Antoine Capton, on sait que Laurent Ruquier ne va plus présenter la saison prochaine l'émission N'est pas couché, le samedi soir sur France 2. Et il se murmure que vous avez un projet assez avancé sur cette case. Est-ce que vous confirmez ?
Alors, est-ce que j'ai un projet avancé? Non. Est-ce que j'ai un projet pour cette case? Oui, mais je pense que Laurent Ruquier veut continuer à la priorité. Il me semble bien normal que ça soit la première option. Si Laurent Ruquier décidait d'arrêter et que France Télévisions était à la recherche d'un projet, on en parlerait évidemment. C'est le rôle des équipes de Troisième Œil d'être présente. Mais on sait quand même faire du talk show et on, entre C'est à vous, entre l'excellence et l'hebdo avec Elie Badou, entre Rayon Culte avec Daphné Roulier, on a prouvé notre savoir-faire en termes de talk show.
Et pour clore ce sujet, vous pourriez produire une émission présentée par Laurent Ruquier?
Je pourrais tout à fait, je l'ai déjà fait par le passé, à plusieurs reprises. J'aime beaucoup Laurent Ruquier, On est par ailleurs voisins en Normandie. Plein de bonnes raisons pour qu'on puisse travailler ensemble, mais je crois qu'il est déjà proche de certains producteurs.
Tiens, puisque vous parlez de Normandie, on s'intéresse ici à la presse écrite. On a longtemps parlé de vous pour reprendre Paris-Normandie, l'un des plus vieux quotidiens de France qui se tourne en liquidation. J'ai appris, j'étais déçu dans Le Point, que vous n'étiez plus candidat à son rachat. Non pas que je souhaitais que ce soit vous, mais je souhaite que tous les quotidiens vivent. Et vous dites avoir un autre projet qui vous tient à cœur dans la presse écrite. Ça sera un projet régional ou un projet national, Pierre-Antoine Capeton?
Ça dépend. J'ai regardé beaucoup de choses. J'étais pas du tout fait pour la presse écrite, même si j'ai rêvé d'être journaliste plus petit et que j'ai malheureusement pas pu rentrer dans une école de journalisme. Quand on est venu me chercher pour Paris-Normandie, je me suis intéressé évidemment au projet. On a beaucoup travaillé. On avait une équipe éditoriale performante. On avait un bon modèle. Malheureusement, le Covid est passé par là. J'ai plein d'autres choses à faire en ce moment entre Media One et d'autres projets sur lesquels je suis. Je regarde actuellement deux projets de presse écrite et je reviendrai vous en parler, Philippe, avec
grand plaisir. Et je précise que la chaîne À la Maison continue, c'est cette chaîne dans laquelle vous avez regroupé 17 partenaires. Il faut aller la voir. Vous aviez dit qu'elle devait s'arrêter après le confinement, elle s'est pas arrêtée et c'est tant mieux. Ça sera mon premier compliment, Philippe, de la journée. Merci Pierre-Antoine Capeton. Je rappelle beaucoup, le Grand Échiquier, présenté par Anne-Sophie Lapix et sa trompette magique, en direct ce soir sur France 2. Écoutez en replay le début de l'émission Pourquoi je parle de trompette. Je vous salue tous, merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue dans un...